C'est le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, on chausse les baskets, on empoigne la raquette, on grimpe sur son vélo. Le sport est un médicament, ça se confirme, enquête à l'appui. Le sport santé sur prescription peut être l'antidote pour les malades chroniques. Des lycéens et des étudiants dans la rue aujourd'hui, pas contre la politique éducative du gouvernement, mais pour réclamer des mesures pour le climat. Les jeunes français emboîtent le pas des Suédoises et des Belges. Si tu ne vas pas au grand débat, le grand débat viendra à toi. Des jeunes, là aussi, à la rencontre des Français dans les gares ou les bureaux de poste. Et les femmes, dans tout ça, éternelle question, à l'heure où les victimes de harcèlement ne se taisent plus. Point de vue d'une philosophe à 8h20.
Oui, Geneviève Fraisse, philosophe de la pensée féministe, elle est l'invitée du grand entretien. Dialoguez avec elle, 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile de France Inter.
À la une également, Donald Trump entre compromis sur le budget et passage en force sur son mur à la frontière mexicaine. Franco, sans doute bientôt exhumé de son mausolée en Espagne, et puis tout Rembrandt à Amsterdam, exposition unique au Rijksmuseum.
France Inter.
Nous sommes 20 millions de malades chroniques en France, diabétiques, dépressifs, atteints de cancer, de problèmes cardiaques. La liste est longue, dit comme ça, un vendredi matin à l'heure du petit déjeuner. C'est un peu plombant, c'est vrai, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que le sport s'est avéré peut-être un médicament. Conclusion des experts de l'INSERM, ils sont formels, Véronique Julia, pour 11 maladies chroniques étudiées. Le sport prescrit dès le départ a de vrais effets sur le pronostic.
AVC, insuffisance cardiaque, cancer, asthme, diabète de type 2, pour ces affections, la règle de ces experts de l'INSERM, c'est du sport au moins 3 fois par semaine pour travailler endurance et renforcement musculaire. Dans le cancer du sein, les résultats d'une telle discipline sont très nets. Fatigue, mortalité et risque de récidive sont réduits de 25 à 40%. On le sait moins, mais une dépression modérée se soigne aussi par l'activité physique. Grégory Nino est psychologue.
Un programme d'activité physique pendant 3 mois va avoir un effet aussi efficace qu'un antidépresseur ou qu'une psychothérapie.
Pour cet autre expert de l'INSERM, François Carré, les résultats d'une pratique sportive observée sur des patients schizophrènes sont impressionnants.
Au début, ils arrivent tous introvertis, regroupés sur eux-mêmes, personne ne bouge. Et à la fin des 6 semaines, c'est un des patients qui fait le cours aux autres. Ils ont tous eu une diminution de leur dose de traitement.
Cardiologue François Carré sait qu'à la sortie de son cabinet, quand il prescrit du sport à ses patients, 30% seulement seront assidus. Un autre tiers arrêtera au bout de 6 mois et les autres n'essaieront même pas de se lancer. Pour que ça marche, il faut, dit-il, prescrire un sport qui les motive.
Si je veux que mon patient change de mode de vie, il faut que je lui fasse faire quelque chose qu'il a envie de faire. Si je lui dis fais de la marche et qu'il n'aime pas marcher, c'est fini. Donc je vais chercher qu'est-ce qui l'intéresse.
La pratique sportive sera adaptée à chacun en fonction de sa pathologie. Après un infarctus, une activité physique soutenue réduirait la mortalité de 20 à 25%.
Véronique Julia pour le sport santé sur ordonnance.
La santé, Florence, est cette première dans l'affaire du Mediator.
Une décision de la justice civile qui condamne Servier à indemniser une plaignante à 100%. Elle va toucher 130 000 euros après avoir pris du Mediator pendant 10 ans et en avoir subi les conséquences. Lors d'un premier jugement, l'État avait été condamné à prendre 30% du préjudice à sa charge. La différence est expliquée par l'avocate de la plaignante, maître Martine Verdier.
L'idée de Servier, c'était de se cacher derrière l'État en disant « l'État est condamné à 30%, donc moi finalement j'assume que 70%. » L'État, il a failli dans son obligation de surveillance d'un produit sur le marché. Mais ce n'est pas parce que l'État n'a pas fait son travail que pour autant Servier n'a pas commis une faute majeure en maintenant sur le marché un produit qu'il savait défectueux. La responsabilité de l'un ne gomme pas celle de l'autre et le pourcentage de responsabilité de l'un n'est pas non plus opposable à l'autre. Servier, il est à 100% responsable de ses actes. C'est même une grande victoire parce que concrètement, cette personne, si on avait appliqué la décision de jurisprudence du tribunal administratif de Paris, elle pouvait prétendre à un maximum de 50 000 euros, là où en réalité, elle va toucher 131 000 euros. Ça n'a rien à voir.
Maître Martine Verdier avec Mathilde Dehimy, le grand procès pénal du Mediator aura lieu cet automne à Paris. Plus de 65 ans après la découverte du vaccin contre la rougeole, la maladie connaît une flambée dans le monde, en augmentation de 50% l'an dernier par rapport à 2017, alerte l'OMS. Cette maladie qui peut être mortelle et très contagieuse, les cas augmentent surtout dans les pays pauvres, mais aussi en France. On l'a vu ces derniers mois.
Il est 8h05 et toi, Flo, t'as cours de quoi cet après-midi ?
J'ai pas cours, j'ai manifestation pour le climat. Dialogue possible dans les facs et les lycées ce matin, alors que des syndicats et des collectifs appellent pour la première fois à la grève aujourd'hui et tous les vendredis contre le réchauffement climatique devant le ministère de la Transition écologique à Paris, notamment, à l'image des jeunes Suédois emmenés par Greta Thunberg et des Belges qui manifestent tous les jeudis depuis janvier à Namur. Angélique Bouin a rencontré la jeune passionnaria wallonne du climat Adélaïde Chartier, 18 ans, presque dépassée par le succès du mouvement.
Entre deux interviews, Adélaïde se trémousse sur le son de la musique en tête de cortège, les flashs crépitent. À 18 ans, elle a été propulsée porte-parole francophone de ce mouvement inédit qui secoue la Belgique depuis 6 semaines. Ils étaient 3000 le premier jeudi, jusqu'à 35000 le 24 janvier.
Le fait que ce soit régulier, c'est comme ça qu'on arrive à atteindre cet objectif pour plus d'action pour le climat. Tout a commencé en Suède avec Greta. C'est pas une grosse manifestation, mais c'est Greta qui s'assied devant son parlement en Suède. Ensuite, il y a eu en Suisse, j'ai entendu même en Australie. Il faut surtout pas arrêter, il faut continuer jusqu'à ce qu'on ait un vrai changement.
Avec son acolyte flamande, Hanouna, les rendez-vous politiques s'enchaînent. Audition devant le Parlement wallon, rencontre avec des eurodéputés. Aucun financement autre que participatif pour ce mouvement et un refus très net de se laisser récupérer par un parti ou une ONG. Du coup, on se débrouille comme on peut, confie la jeune fille, mais on ne lâchera rien.
C'est pas facile parce qu'on n'a pas, on n'est pas une association, on n'est rien, donc on se retrouve chez nous, dans nos maisons, des bars, mais on n'a jamais vraiment un endroit précis.
Et sa scolarité, eh bien, comme Hanouna, elle dort peu pour rattraper les cours et mes parents me soutiennent, insiste-t-elle, on est tous concernés. À Bruxelles, Angélique Bouin, France Inter.
Et voilà qui se confirme dans le grand débat. Il n'y a que les jeunes qui s'intéressent au péril climatique ou presque, constat des étudiants recrutés pour tenir des stands dans les gares ou les bureaux de poste. Reportage à la Poste de Nanterre, signé Sébastien Sabiron.
Est-ce que vous connaissez le grand débat national ?
Absolument pas.
800 000 contributions en ligne, des milliers de réunions locales et pourtant le grand débat ne parle pas encore à tout le monde. Charles et Léon, étudiants à Sciences Po, font preuve de pédagogie.
Il faut s'identifier pour...
Sur le site, il faut s'inscrire. Si vous remplissez ça en papier, c'est pas obligé en fait.
D'accord. Léon, 22 ans.
Les gens connaissent l'existence du grand débat, mais ni les modalités, ni les grands thèmes. Et qu'il existe des questionnaires, des thèmes et des choses qui structurent la pensée. On n'a pas besoin, c'est pas la feuille blanche.
Installé pour 2 jours dans le bureau de poste, il propose de remplir les questionnaires, montre le site internet, recueille les doléances. Un peu plus qu'un job étudiant pour Charles.
Moi je m'attendais pas, mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que les gens ils viennent vraiment nous voir pour se confier. Ils nous parlent de leur vie, de leurs problèmes et... Les jeunes, c'était principalement la transition écologique qui les intéressait. Au-dessus de 30 ans, c'était vraiment plus la fiscalité. Humainement, c'est une expérience assez intéressante, je trouve.
Et l'accueil est plutôt bon.
Je pensais pas qu'on demandait l'avis personnellement aux personnes. C'est très très intéressant. Après, il faut que ce soit pris en compte.
Pour Nadia Beuglin de la mission Grand Débat, la présence des étudiants permet de toucher des Français jusqu'ici peu concernés par la question.
C'est pas un challenge à celui qui ramènera le plus de questionnaires. On préfère qu'ils discutent longuement avec 3 ou 4 personnes qui sinon ne se seraient pas exprimées parce qu'elles n'osaient pas, qu'elles n'en avaient pas les moyens, que de nous faire du chiffre.
Et d'assurer que toutes les contributions glanées dans les bureaux de poste et les gares seront prises en compte dans la synthèse finale.
Et les stands comme celui-là vont se multiplier un peu partout en France dans les jours qui viennent. Un gilet jaune au tribunal aujourd'hui, Éric Drouet, figure du mouvement, poursuivi pour avoir organisé une manifestation sans autorisation. C'était début janvier, en pleine semaine, près des Champs-Élysées. Quant à Jérôme Rodriguez et 3 autres manifestants blessés ces dernières semaines, ils viennent de porter plainte contre la police et contre le préfet de Paris pour complicité. Elle s'éclipse dans la foulée de son mentor, Virginie Calmels, première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, quitte la politique. Elle retourne dans le privé qu'elle avait quitté il y a 5 ans. Du coup, elle n'occupera pas le poste de maire laissé vacant. La majorité a désigné Nicolas Florian, l'adjoint aux finances d'Alain Juppé, jusqu'aux prochaines municipales. Elles auront lieu dans 1 an, ces municipales, en mars 2020. C'est donc le moment de s'en préoccuper pour les partis. Au Rassemblement national, Marine Le Pen réunira cet après-midi une première commission d'investiture pour mettre en piste 60 de fidèles dans des communes gagnables. Et après, le RN, combien de divisions locales ? Maxence Lambrecq, en interne, ils sont nombreux à redouter déjà un échec au municipal.
Le maillage territorial, officiellement une priorité pour Marine Le Pen depuis qu'elle a succédé à son père,
Dans les faits, personne ne s'en occupe vraiment. Et si on se réveille après les européennes, il sera déjà trop tard, s'inquiète un cadre du parti. D'autant que le RN a fermé un tiers de ses permanences cet été, faute d'argent, et qu'environ un tiers des conseillers municipaux élus en 2014 ont déjà quitté le navire. Résultat, en Vendée, par exemple, ils ambitionnent de monter 6 ou 7 listes parmi les 258 communes. Au soir des municipales, le RN ne pourra donc pas se vanter d'être le premier parti de France. On s'en fiche, répond un proche de Marine Le Pen. On va privilégier cette fois la qualité sur la quantité. Si on garde nos villes et qu'on décroche Perpignan plus une dizaine de communes dans nos bastions, ce sera déjà très bien. Attention, la droite risque de tout rafler, se désole un élu breton. On ne pourra pas décrocher de région ou de département, dit-il, si l'on n'investit pas sérieusement dans les territoires. L'histoire se répète, ces alertes, Marine Le Pen les connaît par cœur.
Le Rassemblement National, qui n'a pas été convié, a signé l'appel à l'union contre l'antisémitisme, un appel politique porté par La République En Marche, Les Républicains, le PS, le Modem, les Verts et les Communistes pour des rassemblements partout en France, notamment mardi à Paris, place de la République à 19h. La France Insoumise a été sollicitée, mais Jean-Luc Mélenchon dit ne pas avoir reçu de courrier. Les menaces et les violences contre les Juifs de France ont augmenté de 74% l'an dernier. La brouille est-elle finie entre la France et l'Italie? L'ambassadeur de France, en tout cas, repart aujourd'hui à Rome, annonce à l'instant la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau.
Il est 8h11, comme une ruse de cow-boy.
Quand Donald Trump accepte un marché qui ne lui convient pas, c'est qu'il va sortir son Colt. Alors cette nuit, en acceptant de signer un budget de compromis pour éviter un nouveau shutdown dès demain, mais sans les fonds dont il a besoin pour construire son mur à la frontière mexicaine, le président a dégainé. Ce sera l'urgence nationale pour le mur. Mais Grégory Philips, ça n'est pas la fin de l'histoire.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec ce compromis budgétaire voté hier soir par le Congrès, Donald Trump est perdant. Il voulait 5,7 milliards de dollars pour sécuriser la frontière sud. Il n'obtient qu'1,4 milliard pour ériger quelques dizaines de kilomètres d'une barrière ou une clôture, mais il n'est pas question d'un mur. Alors pour reprendre la main, le président va déclencher cette procédure d'urgence. D'autres l'ont fait avant lui pour débloquer des fonds rapidement. W. Bush après les attentats du 11 septembre 2001 ou Obama au moment d'une crise aiguë de grippe H1N1. Avec cette procédure, Trump va pouvoir lancer au moins symboliquement les travaux de son mur. Mais là encore, il a beaucoup à perdre. Les démocrates peuvent contester l'urgence nationale devant les tribunaux et ils ne manqueront pas de le faire. Hier soir, la speaker de la Chambre, Nancy Pelosi, a dit que la véritable urgence aux États-Unis, c'était le contrôle des armes à feu et pas l'immigration, alors que les statistiques montrent que le nombre d'arrestations de sans-papiers à la frontière est au plus bas depuis 20 ans. Washington, Grégory Philips, France Inter.
Et encore une affaire de budget qui bloque en Espagne, cette fois où Pedro Sanchez devrait convoquer des élections législatives anticipées, à peine 8 mois après son arrivée au pouvoir, parce que son budget n'a pas été voté par les séparatistes catalans. Le Premier ministre qui devait aussi rendre sa décision sur le mausolée de Franco, aujourd'hui son corps sans doute exhumé du bâtiment pharaonique dans lequel il repose depuis 1975 près de Madrid, toujours honoré par les nostalgiques du Caudillo. Sur plage, le reportage de Marie-Hélène Ballestero.
C'est dans ce Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, que se trouve le mausolée de Franco. Un endroit qui suscite le dégoût et un sentiment d'injustice chez Bonifacio Sánchez, porte-parole de l'Association pour la récupération de la mémoire historique.
L'endroit où nous sommes représente l'essence même de la dictature franquiste. Le mausolée d'un dictateur qui a été construit par des esclaves du franquisme. On les a forcés à travailler ici dans des conditions inhumaines. C'est le seul endroit de ce genre en Europe. Comme ce site est inscrit au patrimoine national, nous les Espagnols avons tous dû payer jusqu'à présent les frais de maintenance de ce mausolée, alors que les victimes du franquisme, des démocrates, sont toujours éparpillées dans les fosses communes. C'est insensé.
Le tombeau de Franco est situé dans une basilique souterraine, creusée à même la roche. Pour y accéder, il faut traverser un long couloir, dont les murs sont ornés de statues d'archanges au visage funeste. Une ambiance sinistre où les voix retentissent, comme sorties d'outre-tombe. Pourtant, ce mausolée lugubre ne cesse d'attirer les foules ces derniers mois. Noémie est venue en famille. Elle est contre l'exhumation des restes du dictateur.
Ça me paraît incroyable que désormais, ça soit aussi important d'exhumer la dépouille de Franco. Jusqu'à présent, il a été enterré ici et ça ne semblait pas poser de problème. Je pense qu'il ne faut pas remuer le passé. Les choses ont été bien faites. On a mis en place une démocratie. Pour moi, ça n'a pas de sens tout ça.
L'exhumation de Franco reste une priorité pour le gouvernement Sanchez, mais les héritiers n'ont pas dit leur dernier mot. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Le gouvernement espagnol va donner 2 semaines à la famille de Franco pour choisir un autre lieu pour sa sépulture. Cette information de dernière minute, selon France 3, une attaque à l'acide s'est produite ce matin dans la ligne 1 du métro parisien aux alentours de 8h. Le pronostic vital d'une personne est engagé, nous dit France 3. Direction Amsterdam, pour finir, pour une réunion de famille, celle de tous les personnages de Rembrandt, sortis par le Rijksmuseum, ses peintures, ses dessins, ses estampes, exposées tous, toutes ensemble, pour la première fois, Isabelle Pasquier.
Il y a 400 ans, avec ses autoportraits saisissants, Rembrandt a inventé l'anti-selfie, loin de toute séduction. À Amsterdam, devant ses autoportraits, on a tellement l'impression que Rembrandt nous regarde et nous tend un miroir sans concession. Taco Dips, directeur général du Rijksmuseum.
Rembrandt, il ne s'intéresse pas à la beauté, il s'intéresse à la vérité. Avec toute notre imperfection, mais à l'autre côté, il le fait avec une grande tendresse et ça donne une grande émotion encore aujourd'hui d'être confronté avec nous-mêmes.
L'exposition présente les stars de la peinture du maître du clair-obscur. La fiancée juive, le syndic de la guilde des drapiers, le couple Martin et Hobson, la ronde de nuit et ses centaines d'estampes et de dessins. Et c'est là que Rembrandt se lâche, avec une scène érotique et une autre qui l'est moins. Car Rembrandt était aussi un peu rebelle.
Il faisait des dessins de gens qui font pipi, de gens qui font l'amour. Et aussi dans sa technique, il fait toujours les choses qui ne sont jamais faites.
Aujourd'hui, on sait que Rembrandt utilisait de la plombonacrite pour donner cette présence folle à ses modèles. Il y a 3 ans, des algorithmes ont même réussi à reproduire un Rembrandt. Mais malgré tout ça, le mystère de son génie continue de nous fasciner.
Tout Rembrandt au Rijksmuseum. Et on a le temps de partir pour Amsterdam, Nicolas, parce que c'est jusqu'au 10 juin.
Merci Florence Paracuelos.